On va accueillir au 3921 Fabien et Séverine que nous avions eu il y a quelques semaines et nous avions été interrompus par l'heure tardive puisque nous avions dû rendre l'antenne à 1h du matin. Séverine et Fabien qui ont respectivement 42 et 40 ans et qui ont tout plaqué pour se construire une vie de famille plus belle au Canada. On avait évoqué avec eux leur arrivée au Canada. Le couple est originaire de Normandie et a quitté l'heure en juillet 2019 pour s'installer à Chicoutimi, au Québec, avec leurs deux enfants, Yon et Alec, qui ont 13 et 10 ans. Et ils adorent leur nouvelle vie, c'est ce qu'ils nous ont raconté la dernière fois. Ils viennent tout juste de recevoir leur carte de résident permanent, 2 ans après avoir entamé les démarches. Bonsoir Séverine et Fabien, comment ça va ?
Bonsoir, ça va
très bien. Bonsoir. De l'heure, ils ont attrapé un petit accent canadien. Eh oui, sur le bonsoir, on l'entend bien. On l'attrape vite fait, hein, dites
donc. On ne s'entend plus parler.
Vous entendez plus ?
Oui, c'est vrai. Non, on ne s'entend plus. On le sent quand on reparle avec notre famille française, mais on ne s'entend plus. On n'a pas cette impression d'avoir pris un accent.
Et oui, parce que, en fait, vos familles vous le disent que vous avez pris un accent ?
Oui, ça commence,
oui, un
peu. Vocabulaire aussi.
D'accord, alors, on s'était quitté la dernière fois parce qu'il était 1h du matin, et on parlait de vos deux enfants, Yon et Alec.
Oui.
Et j'aimerais que vous me disiez ce qui a changé dans leur vie et ce qui vous paraît être dans le mode de vie, dans ce qui est proposé à ces enfants, qu'est-ce qui est révolutionnaire, qu'est-ce qui leur plaît aujourd'hui dans leur vie ?
La dernière fois, je vais commencer, puis après mon mari va pouvoir prendre la suite. Mais la dernière fois, on avait ce sentiment de liberté. Mon fils avait ce sentiment de, quand je le déposais à l'école, le directeur fermait toujours à triple tour la porte.
Oui.
Les portes, tout était fermé, c'était grillagé avec des pics sur les barrières. Et ici, tout est ouvert. Ils peuvent bénéficier de la cour et des jeux des écoles. L'hiver, on va patiner sur la patinoire extérieure de l'école. Tout est ouvert vraiment. Et puis, il y a comme l'école est au cœur du quartier. Ce qui fait que l'école, la cour de l'école, c'est vraiment le soir, on se réunit, nous, parents et enfants, on va jouer un basket. L'hiver, on va faire du patin. Et c'est vraiment le cœur du quartier. Et ça, mes enfants ont eu ce sentiment de confiance.
Oui.
En fait, les professeurs leur donnaient la confiance. Tout est ouvert, mais on a confiance en toi. On t'explique ce qu'il faut faire, on t'explique ce qu'il ne faut pas faire et on te laisse la confiance. Donc ça, c'est quelque chose que mes enfants adorent vraiment et se sont sentis comme, on va dire, valorisés.
Oui. C'est totalement différent. C'est sûr que finalement, on a l'impression que au Canada, les enfants sont tout de suite perçus comme des personnes à part entière. Vous voyez ce que je veux dire ?
Exactement. Et ça se voit aussi parce qu'ils le disent. Alors, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, mais en tout cas, eux, ils le voient comme ici, quand tu es coiffeur, mécanicien, c'est pas que tu as raté tes études. Au contraire, tu es un travailleur. Ici, ils disent souvent... dépêchez-vous de finir vos études, dépêchez-vous parce que nous, on a besoin de travailleurs, vous êtes des futurs travailleurs,
on
investit dans vous, tous les métiers sont vraiment essentiels au sein du Québec, au sein du Canada, c'est vraiment, il y a une valorisation, mais ça on en avait aussi un petit peu parlé, ici tout est possible, tu peux monter ton entreprise à 12-13 ans parce que déjà à 12-13 ans, tu peux aller faire un petit job, on appelle ça les jobinettes là, mais ils peuvent déjà aller rendre service à la communauté, aller travailler. Il y a vraiment cette culture du bien-être du travail,
oui.
De l'importance dans... C'est ça. Ici, nous, on a la joie d'aller au travail. En France, on avait toujours le travail, c'est la santé, il y a fait la chanson là. ici, on sent comme une culture du travail déjà depuis le jeune âge.
Oui, et en fait, lorsque vous dites que vous êtes valorisé, c'est que tous les métiers, en fait, il n'y a pas de sous-métier là-bas.
Exactement.
Ouais,
non.
Ouais.
Ici, il y a vraiment... Mais on le voit aussi avec la pandémie où tous, on s'est dit, oulala, les coiffeuses sont importantes. Hein?
Oui.
c'est ça. Moi, je me suis entendu dire, puis j'étais éducatrice spécialisée pour ados, donc je me suis entendu dire, ou j'ai entendu dire aussi par d'autres, oh, ben non, mais t'es bon à l'école, va pas faire des études de coiffeuse. Ben, voyons, t'es bonne à l'école, va pas. Ben, pourquoi ?
Mais pourquoi ?
Pourquoi pas ?
Ben oui.
Ben, c'est ça. Pourquoi pas ? C'est pas parce que tu vas être coiffeuse que tu vas avoir raté ta vie. Au contraire. Et je trouve qu'ici, chaque métier est important, chaque personne est valide. C'est vraiment cette culture de tu travailles. Déjà, le fait d'aller travailler, c'est sûr que la personne qui ne travaille pas ici est très, très, très mal vue. C'est vraiment quelque chose de... Je trouve que, par contre, à l'inverse, sont très durs envers les personnes
ah oui.
qui ont des difficultés à travailler. Ah oui,
Est-ce qu'il y a beaucoup de chômage, donc, dur. Du coup, au Canada ?
Non, il n'y a pas. Il n'y a pas de chômage. Non, il n'y a pas de...
Non, il n'y a pas de chômage. Très peu de chômage.
On est en région... Non, il n'y a pas. Non, on est en pénurie, là. Si vous avez envie, et c'est de faire notre témoignage, là, mais mon mari va pouvoir aussi, après, agrémenter
ouais,
tout ça.
Ouais.
Mais si vous avez envie de venir, c'est le moment. Partout,
ah oui,
partout,
ouais.
ils sont en pénurie. Il y a du travail partout.
Et en fait, dans tous les secteurs, il y a du travail ?
Dans tous les secteurs, partout.
Mais alors,
c'est
justement,
que...
j'ai vraiment tenu à vous reparler ce soir parce que, justement, pour aborder ce côté-là, parce que vous savez, il y a toujours le fantasme de changer de vie, d'aller dans un pays comme celui-ci qui est vraiment aujourd'hui presque un des seuls Eldorado hein, sur cette terre, parce que jeune pays, parce que pays qui a besoin de travailleurs, comme vous l'avez dit. Mais est-ce que c'est facile de changer de vie ? Est-ce que c'est facile de s'établir au Canada ?
Je vais donner la parole à mon mari, parce que moi, je suis revenue pour faire des études, parce que c'était ma porte d'entrée pour pouvoir venir en famille, comme je vous avais expliqué la dernière fois. Moi, le fait de repartir en études, ça me permettait de venir avec mon mari et mes enfants. Mais mon mari, lui, qui était intermittent du spectacle en France, a dû venir ici, puis c'était à lui de chercher du travail. Donc, je pense qu'il pourra aussi témoigner par rapport à ça, parce que c'est sûr qu'on repart à la base, hein. On doit refaire des preuves. À 40 ans, on refait nos preuves. Mais on grimpe vite.
D'accord. Alors, c'est quoi, Fabien, refaire ses preuves ? Comment vous avez fait, vous ?
Ouais, alors, ben, c'est ça. Est-ce que c'est facile ? Je dirais oui et non, dans le sens où ben, personne ne nous connaît. Si tu as des compétences, une expertise, moi, ça faisait 15-20 ans que je faisais ce travail-là, tu arrives à un endroit, il faut que les gens ne connaissent pas, donc tu as tout le temps tes preuves à faire. Et donc, ce qui est difficile, c'est de redémarrer à zéro.
Oui.
C'est-à-dire, moi, j'étais arrivé à un certain niveau où je faisais beaucoup de programmation lumière sur des gros spectacles.
Oui, oui.
Fait que quand tu reviens à la base, ben, c'est là, il faut que tu roules tes fils, puis il faut que tu pousses les caisses, et ainsi de suite. Non pas que je ne le faisais pas en France, mais en tout cas, tu redémarres vraiment à la toute base de ton travail.
Oui.
Et ça, il faut pouvoir prendre sur son ego aussi personnel.
Mmh,
Et c'est sûr qu'en écoutant beaucoup de témoignages aussi des gens qui avaient immigré, parce que forcément, on s'y était aussi intéressé, ben c'est ça la difficulté. Et puis, c'est de se refaire aussi un réseau, même si les Québécois et Canadiens, ils sont, en tout cas Québécois, ils sont plutôt
très accueillants.
Avenants, plutôt, ouais, mais il y a quand même... Il faut pouvoir aussi s'intégrer. La confiance, elle n'est pas amenée aussi facilement, alors qu'en France... On va quand même, dans un premier temps, être assez, on va se méfier, mais finalement, on va quand même ouvrir la porte quelque part assez facilement. Ici, on ne t'ouvre pas la porte de chez toi si facilement non plus. C'est ça un peu la controverse aussi du côté
qu'est-ce
accueil
que vous
des
appelez,
Québécois.
Qu'est-ce que vous appelez ne pas ouvrir la porte de chez soi facilement ?
Ben, c'est-à-dire qu'on peut, jaser facilement avec les gens, on peut discuter pardon, facilement avec les gens.
Oui.
Et puis lier des mais c'est quelque chose de dans un premier temps assez superficiel.
D'accord.
Pour pouvoir avant vraiment d'avoir des amis, on a l'impression que les gens sont très très accueillants, mais on t'ouvre pas la porte si facilement de chez toi pour dire allez viens manger chez nous, puis on va apprendre à plus se connaître. C'est pas si simple en tout cas de ce côté-là. Fait que et puis voilà, puis après le côté professionnel aussi pour faire ses preuves, redémarrer à zéro. Je sais qu'il y a des gens qui, par exemple, il a été directeur en France et ils arrivaient ici, ils pensaient qu'ils allaient être directeurs tout de suite, mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est ça le côté difficile, je trouve. Enfin, en tout cas, il faut savoir accepter ça.
Mmh.
Revenir à zéro,
Est-ce que d'un point de vue administratif, là où en France tout est compliqué, tous les papiers qu'il faut, il faut écrire des mails, il faut demander des autorisations de ceci, cela, l'immatriculation, est-ce que c'est compliqué au Canada ou c'est facilité?
Ça, je vais laisser ma femme répondre.
oui, parce que c'est nos cousins éloignés, donc Astérix et Obélix avec le formulaire E459 ou je ne sais plus quoi là. Oui. Ici aussi, c'est compliqué les papiers. Puis on est aussi dans un contexte où aujourd'hui il y a une province qui est le Québec,
oui,
et il y a un fédéral qui est le Canada. Et donc aujourd'hui, on doit des papiers aux provinciales qui sont d'une certaine manière, et puis on doit aussi des papiers au fédéral qui sont tout autre chose avec une autre manière.
C'est comme si vous aviez deux nationalités en fait.
C'est ça, on a deux premiers ministres.
Oui.
On a le premier ministre du Québec auquel on a des lois du Québec qui sont différentes du Canada.
Oui.
Et on doit une TVA au Québec, on doit des taxes au Québec, on a des obligations par rapport au Québec. Mais on a aussi un premier ministre du Canada, on a des taxes du Canada, on a des obligations du Canada. Donc ça, c'est un peu étrange, mais c'est assez complexe à comprendre. Maintenant, franchement, ça se fait. Puis, ici, on ne peut pas faire nos impôts comme en France où ils sont déjà prédéclarés. On a juste à refaire quelques petites modifications et basta, c'est fini. Ici, on est obligé de payer des comptables.
Oui.
Pour faire nos impôts.
Ah bon ?
Parce que c'est tellement complexe qu'on ne peut pas faire nos impôts tout seul.
Mais parce que vous n'êtes pas Canadien et que vous ne savez pas les faire ou tous les Canadiens prennent des comptables ?
Tous les Canadiens et tous les Québécois prennent des comptables.
Ah oui, d'accord.
Souvent, c'est quelque chose qui est assez... Enfin, c'est la majorité des gens vont prendre un comptable pour faire les impôts. Après, il y a des gens qui vont acheter un logiciel qui change chaque année. Ils achètent un logiciel pour pouvoir déclarer leurs impôts. Ça reste assez complexe. Puis, j'ai l'impression que c'est fait exprès aussi que c'est un peu complexe. Parce que il y a beaucoup de... En fait, en France, on s'est aperçu par rapport au travail. En France, on va être 3 personnes pour faire une job. Et ici, ils vont être 10. Il y a des multitudes de tâches. Tout est multiplié. Ils ouvrent 7 jours sur 7. 24 heures sur 24.
Ah oui, oui.
Un dimanche n'est pas un dimanche ici. Un dimanche, les gens, ils vont magasiner, ils vont acheter des chaussures.
Oui, ils vont faire du shopping et tout. Tout est ouvert. D'accord.
Tout est ouvert.
Ils vont magasiner.
Ça ferme à... Exactement. Et mon mari était tellement content. Il dit, on n'a plus de lait. Il est 22 heures. J'y vais.
Hey, c'est ouvert 24 heures sur 24.
Il est minuit. On a un peu changé.
Hey, il est minuit. J'aimerais bien snacker. Eh ben, c'est bon, c'est possible au Canada.
C'est pas snacker, c'est friendship.
Je fais plutôt l'accent belge. Moi, à chaque fois que j'imite les Canadiens, c'est une catastrophe. Ouais, c'est ça. C'est 7 jours sur 7.
Donc, quand on va au supermarché, il y a des commis de course. Il y a des commis de course, il y a des jeunes,
oui,
qui rangent
dans les sacs,
dans ton sac, mm-hmm, qui mettent dans ton caddie. Puis c'est ça, il y a énormément de petits jobs. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'étudiants aussi qui travaillent. Et puis, c'est ça aussi, les études sont payantes ici, comme aux États-Unis.
Oui.
Chaque session que tu fais, que ce soit l'automne, l'hiver, tu payes ta session, donc tu payes pour aller faire. Donc, il y a beaucoup de jobs pour étudiants. Donc, c'est multiplié plein de tâches qui fait qu'à un moment donné, c'est sûr qu'ils sont en pénurie de personnes. C'est fou, le nombre de personnes qu'ils ont besoin pour faire vivre aussi un magasin.
Et c'est ça qui donne du job à tout le monde, en fait, finalement.
Exactement.
C'est ça.
Et vous, vous avez retrouvé du travail facilement, Séverine, dans Éducation SPÉ, ou vous avez changé de branche ?
Ben, alors, moi, comme j'ai repris mes études, il fallait que je reprenne des études courtes, parce que 2 enfants, changement de vie, fallait pas que je reprenne un 3 ans d'université. Donc, ils nous proposent, il y avait comme 150 métiers en pénurie.
Oui.
Dans ces 150 métiers d'études courtes, donc c'était 15 mois, donc c'était des études professionnelles. Il y avait des mineurs dans les mines, il y avait conducteurs de train, il y avait soudeurs. Je me suis dit, oula, ça va être un petit peu de job, là.
Ouais, ouais, ouais.
Et il ne restait pas grand-chose dans le social, là. Donc, il n'y avait même rien dans le social. La seule chose qui se rapprochait au service à la personne, c'était assistante dentaire. Il faut savoir qu'ici, il y a des jobs qui n'existent pas en France. Tout ce qui est hygiéniste dentaire, assistante dentaire, c'est vraiment pas du tout la même chose qu'en France. Souvent, en France, le dentiste va faire la plupart des actes. Ici, le dentiste, il a deux hygiénistes, deux assistantes, il a 5 salles d'opération.
Oui.
Et donc, moi, en tout cas, je fais des opérations en bouche, je fais des choses qui fait qu'à un moment donné, c'est ça, c'est vraiment pas le même job. Donc, moi, j'ai repris mes études assistante dentaire, c'est 15 mois, ça me permettait de garder ce côté service à la personne.
Oui.
J'ai été diplômée, j'ai trouvé du travail très, très vite parce qu'il y a du travail partout de toute façon. Et puis, ma dentiste a dit « Bingo !» Elle a l'air bonne dans la gestion du personnel. Donc, elle m'a envoyée pour faire une formation gestionnaire de clinique. Et aujourd'hui, je suis gestionnaire de la clinique, sachant qu'une clinique dentaire, c'est un dentiste propriétaire, souvent un ou deux dentistes à pourcentage. Et puis, j'ai 15 autres personnes à gérer. Donc aujourd'hui, on m'a comme dit, OK, les compétences que tu as là, moi, je veux les absorber là. Donc, je suis gestionnaire de clinique aujourd'hui. Je vous avouerai que ce n'est pas ce que je préfère le plus, mais pour l'instant, je n'avais pas le droit d'aller, entre guillemets, retourner dans un métier qui me correspond par rapport à mes expériences passées, parce que j'étais encore... En fait, on signe un contrat avec le Canada.
Oui.
Quand on reprend ses études, on signe un contrat pour dire, à la fin de mes études, je rentre en France.
Ah bon ?
Il faut s'engager à ça. Oui, ah bon, c'est comme ça. Eux, ils veulent bien que tu viennes étudier, mais ils ne veulent pas que tu sois à leur charge. Donc, tu signes un contrat comme quoi, à la fin de tes études, tu rentres en France. Puis après, tu te dis, OK, à la fin de tes études, je peux enchaîner un nouveau permis, un permis post-diplôme. Donc, j'envoie ma demande, ils disent « Bon, d'accord, vous n'avez pas eu d'arrestation, vous n'avez pas été ceci. » Et là, ils te redonnent un autre permis, un permis post-diplôme, et tu dois travailler dans le métier que tu as étudié.
D'accord.
Donc, il fallait que je sois assistante dentaire. Et ce permis-là, il repousse encore de 15 mois. Donc, j'étais comme un peu prisonnière, tant que je n'étais pas résidence permanente, permanente, moi, j'étais un peu prisonnière dans le cursus, on va dire, d'immigration. Mais mon mari, lui, avait un permis de travail ouvert. Donc, lui, il pouvait faire ce qu'il voulait. Mais moi, j'étais un peu prise. Donc, aujourd'hui, maintenant que je suis résidente depuis le 24 mars dernier, je vous avouerai que c'est ça. Je commence un petit peu. J'ai fait réévaluer mes diplômes français. Voilà. Maintenant, je peux les faire évaluer.
Et
ça va me permettre.
Finalement, si j'ai bien compris, vous arrivez, vous, donc vous avez fait 15, vous étiez contrainte de faire 15 mois d'études. Et puis, ensuite, d'exercer 15 mois dans la branche des études que vous aviez faites.
Exactement.
Et après, c'est 30 mois en tout, vous étiez résidente permanente et là, vous pouvez désormais aller dans le secteur que vous voulez. Réévaluer vos diplômes français, bien évidemment.
C'est ça. Là, maintenant, je vais faire réévaluer mes diplômes et ça va me permettre de ne pas recommencer à la base.
Et justement, qu'aujourd'hui, par rapport à la France... excusez-moi, je vous ai coupé parce qu'il y a un petit décalage. Mais,
non, allez-y.
Est-ce que par rapport à la France, dans le social, parce que dans le social, il y a du boulot ici en France, hein, puisqu'il y a beaucoup de misère, beaucoup de précarité. Est-ce que c'est la même chose là-bas ?
Oui, c'est la même chose. Après, ici, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de problèmes culturels parce que il y a des réserves aujourd'hui, les réserves amérindiennes, autochtones. Avec le premier peuple qu'ils appellent, et d'actualité. Ce qui fait qu'il y a un décalage énorme de culture entre... Ils appellent les Blancs et les Métis ou alors le premier peuple. Donc, en fait, oui, il y a de la misère, mais il y a des aides qui sont un peu complexes. Il y a encore une politique un peu complexe qu'on a encore des difficultés à tout comprendre. Mais aujourd'hui... c'est sûr qu'on ne peut pas dire que la misère vient de « je ne trouve pas de travail ». Ici, la misère, elle est plutôt dans « j'ai des difficultés à maintenir mon niveau de vie parce qu'il y a beaucoup de problèmes de drogue.
Oui. »
Parce qu'ici, la drogue, ça circule beaucoup. Puis l'État en vend. Il y a aussi la légalité d'aller acheter du cannabis.
Ah bon, d'accord.
Il y a des magasins qui... Oui, ici, mon mari va peut-être plus vous le dire, mais il y a la SDQ. Bon, bref, c'est...
SQDC.
C'est, aujourd'hui, on peut... SQDC, ouais. La SQDC, c'est un magasin d'État qui, où on peut aller légalement acheter du cannabis. Ici, il y a aussi des sociétés d'alcool. On ne peut pas acheter de l'alcool n'importe où. On va les acheter dans des magasins d'État, comme aux États-Unis. C'est la même chose.
Et pourquoi ? Pour exercer un contrôle ? Pour exercer en tout cas un contrôle même médical ?
Oui, tout est lié juste à ça. Au moins, ils contrôlent. Puis, ils ont laissé cette légalité parce qu'ils conçoivent aussi qu'il y a de la consommation médicale. Oui. Ça, ils le reconnaissent aussi. Donc voilà. Il y a et puis, ils en parlent beaucoup. Au début, on était un peu choqués avec mon mari parce que c'est ça, il y a ce côté où c'est très légalisé. Nous, on était là, maintenant, on a le droit d'en parler. Oh, ils ont le droit de fumer. Oh, ils ont le droit d'aller en acheter. C'est choquant pour nous, Français. Bien, ok.
Pourquoi ? Parce que finalement, alors justement, vous qui habitez maintenant là-bas et où c'est légalisé, on en parlait tout à l'heure parce que dans la première partie de l'émission, on a eu Mathilde qui est une escorte et qui expliquait le métier d'escorte et justement qui parlait de dépénalisation de ce métier de prostitution. Mais vous dites, vous, en tant que Français, vous êtes arrivé là-bas, est-ce que ça fonctionne quand même ? Parce que vous m'avez dit, au final, il y a beaucoup de gens qui se droguent. Est-ce que vous faites un rapport de cause à effet avec le fait qu'il y ait des endroits où on peut en vendre, qui fait que ça favorise le circuit, la circulation de drogue au Canada ?
J'ai lu un peu, on a regardé des reportages, on a lu des enquêtes. Il n'y a pas plus de personnes qui consomment parce que c'est légal ou pas légal.
Oui.
Ça ne s'ajoute pas là-dessus. C'est plus le fait qu'à un moment donné, il y a moins de comment vous expliquer ça ? Mais c'est libre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va dans un parc de jeux pour enfants. On a déjà cette odeur-là. Même si, des fois, on pense que c'est une moufette écrasée, mais
oui,
non, c'est
oui.
ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que...
Ça consomme librement en plein air.
Ça consomme librement en plein air, partout, n'importe où.
Ouais.
Après, il y a des espaces fumeurs, il y a des espaces non fumeurs, comme en France, où il y a eu quand même... on ne peut pas fumer n'importe où. Mais c'est ça, c'est juste que c'est légal. Est-ce que c'est plus... Moi, je pense que c'est le fait d'avoir une frontière aussi avec les États-Unis qui fait qu'à un moment donné, on a plus... de drogues dures qui viennent facilement
et puis,
ici.
Voilà, et puis permettez-moi de vous dire que tout de même, aux États-Unis, et étant voisin avec les États-Unis, bien évidemment, il y a quand même une mentalité. Les Américains consomment beaucoup plus de drogues qu'en Europe. Les jeunes Américains sont confrontés non seulement à une consommation de drogues plus importante, mais à des produits même qui posent problème là-bas. Je pense à la méthamphétamine, notamment, qu'on ne retrouve pas ici en Europe, alors que ça fait des ravages aux États-Unis. Et donc, c'est sûrement des drogues dures dont vous parlez qui font un carnage dans la population.
Exactement, c'est ça. Et puis, c'est pas tabou, tu sais, c'est libre accès. Puis, c'est pas ça qui est légalisé, hein. C'est pas la drogue dure qui est légalisée. Ça
non, j'ai bien compris.
C'est interdit, mais c'est ça, c'est facile.
Oui, c'est facile.
C'est ça. Je pense que on est à la frontière avec les États-Unis, donc c'est facile. D'en avoir, c'est facile de s'en procurer. Il y en a dans toutes les fêtes, dans tous les festivals, dans toutes les soirées. C'est facile.
Oui. Et est-ce que la population indienne, puisque vous m'avez dit que vous habitiez à Chicoutimi, qui est une ancienne colonie, enfin, c'est finalement les Indiens qui étaient là-bas, hein, les Indiens.
Oui.
Est-ce qu'il y a des
Amérindiens,
est-ce qu'il y a des problématiques aussi comme en Australie d'une population qui se sent un peu envahie, qui est la population la plus pauvre. Est-ce que il y a les mêmes problématiques en Australie, par exemple?
C'est la même problématique qu'en Australie.
Oui.
C'est la même problématique que tous les pays qui font qu'à un moment donné le premier peuple a été poussé et se retrouve coincé. Parce que eux ont une culture qui n'est pas forcément la même culture qu'à l'européenne, en tout cas. et qui fait que ben à un moment donné ça se comprend pas. C'est difficile parce que aujourd'hui un Amérindien a des droits quand il est dans sa réserve.
Oui.
Mais à partir du moment où il sort de sa réserve, il perd ses droits.
Oui, oui.
Ça veut dire que quand un Amérindien va dans sa réserve, vit dans sa réserve, travaille dans sa réserve, il ne paye pas d'impôts. Il a une rente à vie parce que le Canada se fait pardonner d'avoir pris les terres du premier peuple. Donc, s'il veut l'Amérindien, il reste dans sa réserve. Il n'a pas besoin d'aller travailler, puis sa vie, c'est ça. À partir du moment où il a envie d'aller à l'école, qu'il a envie d'avancer, d'avoir, de sortir de sa réserve, ben là, il perd tous ses droits. Ce qui fait qu'à un moment donné, on se retrouve avec des Amérindiens qui veulent sortir des réserves, qui veulent avancer, mais c'est ça, ils n'ont jamais été autonomes.
Ouais, ils n'ont pas de droit.
Donc,
ils n'ont pas de droit hors de leur réserve, en fait. Et c'est là où donc il y a du boulot. C'est là où il y a du boulot en social.
Oui, beaucoup. Puis nous, on est assez ouverts avec mon mari sur plein de choses. Donc, on a déjà été. Il y a des Québécois qui n'ont jamais été dans des réserves. Nous, on a été déjà dans une réserve. Puis on a travaillé aussi, on a travaillé avec nos enfants pour essayer de comprendre. On a été visiter beaucoup aussi. C'est un peuple qui veut bien partager. C'est un peuple qui explique beaucoup à l'oral. Il y a peu d'écrits.
Oui.
C'est vraiment un peuple très intéressant, qui a plein de choses à dire. Mais c'est ça, c'est... il n'y a pas si longtemps que ça qu'ils prenaient leurs enfants, qu'ils les enfermaient dans des orphelinats. Puis on est encore... Il y a encore des orphelinats où des tombes sont creusées avec des milliers d'enfants autochtones retrouvés avec des enquêtes qui fait qu'à un moment donné, ils ont été violentés, etc. Donc, on est encore dans on déterre encore des secrets qui se sont passés il y a une centaine d'années, qui fait qu'à un moment donné, ce peuple-là n'a plus confiance.
Oui, il y a un sérieux dossier donc entre ce peuple-là et les occupants, parce que il y a aussi cette histoire qui fait que c'est le premier peuple qui était là et que il se retrouve finalement avec très peu de droits et envahi, parce que bon, on est donc dans la même configuration que les aborigènes en Australie, avec sans doute un taux de consommation de drogue et d'alcool élevé chez ces populations-là. Ça va vous faire un peu de travail, ceci
Exactement.
Dit. Ça va vous faire du travail, c'est vrai, sans doute.
Oui,
Sarah nous demande sur Facebook, quels sont les... La vie est-elle chère au Canada ? Est-ce qu'il y a une différence entre la vie que vous meniez en France au niveau de la consommation ?
Je vais laisser mon mari expliquer.
On n'a plus que 3 minutes. Ça passe vite.
Oui.
Oui, ouais. Oui non, ça demeure quand même, je trouve, moins cher. Il y a des choses quand même qui sont plus chères. Mais par exemple, on arrive à faire, nous, des économies, c'est bête, mais l'eau est gratuite ici. Donc, on s'entend que l'eau est très chère en France.
Oui.
Donc, ça, déjà, on fait des grosses économies. L'électricité aussi est nettement moins chère, parce qu'ici, c'est que de l'électricité hydroélectrique.
Oui, barrage.
Il n'y a que des barrages, il n'y a pas de nucléaire, ainsi de suite. Les autoroutes sont gratuites. Donc, ça aussi, on fait aussi des grosses économies. Après, l'essence est aussi un peu moins chère, mais les moteurs consomment plus. Et puis, l'épicerie est plus chère. Donc, tout ce qui est dans le supermarché, c'est beaucoup plus cher.
Oui.
En revanche, les taxes sont moins chères. Par exemple, ici, on va payer que 15% de taxes comparé en France, où tout ce qu'on va acheter, sauf si on va dans un restaurant, ça va être 5%. Ou si on fait faire des travaux, ça va être 5%.
Oui.
Mais en tout cas, c'est beaucoup moins taxé en règle générale. Donc, moi, je gagne un peu moins bien ma vie. Mais j'arrive à avoir beaucoup plus d'argent sur mon compte en banque à la fin du mois, étonnamment. Et ça a fait une vraie différence. En France, on était pas ric-rac, mais on avait quand même beaucoup, beaucoup de choses à payer. Ici, on reçoit quand même pas mal d'argent de l'État. C'est assez fou. Donc, quelque part, vraiment, la vie, moi, je trouve, est quand même moins chère. Après, il faut aussi, si tu veux taper à la mode américaine et être en surconsommation tout le temps, il y a des gens qui se mettent vraiment sous l'eau là, avec toutes les cartes de crédit, parce qu'une carte de crédit, tu peux en avoir une facilement dans un magasin. On te propose une carte de crédit, tu prends ta carte de crédit. Donc il y a des gens qui se mettent vraiment en,
ouais, qui s'endettent, en surconsommation, en surendettement.
Qui s'endette à fond la caisse là, parce qu'il y, y a le voisin, il a un pick-up, l'autre il veut le même pick-up, l'autre il a un skidoo, donc il veut un skidoo et ainsi de suite. Mais raisonnable, franchement, tu gagnes mieux ta vie ici et puis ça demeure moins cher.
C'est quoi un skidoo? C'est les trucs qui vont sur la neige là, c'est ça?
Oui, c'est
motoneige.
Ça, c'est
une motoneige.
Ouais, une motoneige, voilà.
D'accord, ça, d'accord. Le skidoo. Ouais. Et bon, bah super. Les routes, paraît-il, sont en très mauvais état, c'est vrai ça?
Ouais, c'est clair.
Ah bon?
En fait, avec le...
Avec la neige, non, le froid.
Mais il y a ça, mais je pense vraiment qu'il y a une mafia de la route, dans le sens où, en France, sincèrement, les routes sont magnifiques, elles sont vraiment belles. Quand ils refont une route, c'est nickel, c'est un billard. Ici, t'as l'impression qu'ils refont la route, genre vite, vite. De toute façon, ils savent qu'ils vont y revenir l'année prochaine. Donc, et puis en plus, ça crée de l'emploi. Donc moi, je suis... On se pose tous la question si c'est pas une mafia de la route, tellement elle est en mauvais état.
En tout cas, oui, et c'est vrai qu'il y a une mafia là-bas, et pas que pour les routes. D'ailleurs, je vous conseille de louer le film Mafia Inc., qui est sur la mafia canadienne, et qui est un excellent film, qui est le dernier film que j'ai vu sur la mafia, et sur la mafia là-bas au Canada, qui est super. On vous rappellera, Fabien et Séverine, on aura encore une discussion sur le Canada, parce qu'on a encore plein de choses à se dire. En tout cas, merci de nous avoir ce soir encore fait part de votre expérience là-bas au Canada, et puis on vous embrasse bien fort.
Avec grand plaisir.
Merci.
Au revoir, portez-vous bien, et à bientôt.
Bye bye.
Au revoir.